VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du vendredi 11 octobre 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Tunisie, débat télévisé attendu ce soir entre Nabil Karoui et Kais Saied, les candidats au second tour de la présidentielle de dimanche.
Amnesty International dénonce en Algérie un climat de répression du mouvement populaire de contestation.
Une première au Soudan, une femme a été nommée à la tête de son système judiciaire.
Au Mali, visite du Premier ministre Boubou Cissé dans le centre du pays pour la première fois depuis les récentes attaques meurtrières des djihadistes.
L'offensive militaire turque contre les combattants kurdes dans le nord-est de la Syrie a provoqué hier la fuite de milliers de civils.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Tunisie, les deux candidats au second tour de la présidentielle de dimanche ont repris hier leur campagne au lendemain de la libération du publicitaire Nabil Karoui. Un débat télévisé aura lieu ce soir entre M. Karoui et l'universitaire Kais Saied. Le point avec Irénée Herman Umbo.
J'espérais que ces élections soient reportées d'une semaine pour que le peuple tunisien puisse voir et comparer, a lancé Nabil Karoui. Il reste un ou deux jours, mais on va mener la bataille, on va gagner, insiste-t-il. Un débat télévisé qui doit opposer vendredi soir le magnat des médias à l'austère enseignant de droit, un rendez-vous inédit en Tunisie et rare dans le monde arabe. Monsieur Karoui va tenter de rattraper le retard qu'il affichait dans les sondages. Le publicitaire a prévu de se rendre aujourd'hui dans sa ville natale de Bizerte, avant un grand meeting en plein centre de Tunis en fin d'après-midi. Face à lui, Kais Saied doit aussi reprendre ses visites. Il est également attendu dans le centre de Tunis ce vendredi en fin d'après-midi pour un dernier rassemblement selon ses partisans. Les 7 millions d'électeurs se rendent aux urnes dimanche pour la troisième fois en un mois après des scrutins ayant exprimé un ras-le-bol de la classe politique qui peine à répondre aux attentes sociales de la population 9 ans après la révolution.
Amnesty International a dénoncé hier l'actuel climat de répression du mouvement populaire de contestation en Algérie. Cette sortie coïncide avec l'arrestation d'un autre responsable associatif, Yacouba Ouédraogo.
La directrice d'Amnesty en Algérie, Hassina Ousedika, dénonce, je cite, « une recrudescence du nombre d'arrestations arbitraires de militants, journalistes, avocats, étudiants ou de simples citoyens en violation flagrante des droits garantis par la Constitution ». Jeudi matin, Abdelwahab Fersaoui, président du Rassemblement Action Jeunesse, a été arrêté lors d'un rassemblement de soutien aux personnes placées en détention dans le cadre du mouvement de contestation. L'Algérie est secouée depuis le 22 février par un mouvement inédit de contestation du régime appelé Hirak, qui a entraîné la démission du président Abdelaziz Bouteflika en avril et réclame désormais le départ du système. Mais le nouvel homme fort du pays, le général Gaïd Salah, a dit vouloir la tenue d'une élection présidentielle pour le 12 décembre. Les manifestants veulent le départ de tous les caciques de l'ancien régime. La présidentielle n'a pas pu se tenir en juillet dernier, faute de candidats.
Le Soudan a nommé à la tête de son système judiciaire une femme, la première de l'histoire de ce pays. Ancienne juge de la Cour suprême, Nemat Abdullah Khair, supervise désormais l'ensemble du système judiciaire du Soudan, entrée fin septembre dans une période de transition après la destitution par l'armée du président Omar el-Béchir le 11 avril sous la pression populaire. Sa nomination fait suite à une autre première, celle d'Asma Mohamed Abdallah au poste de ministre des Affaires étrangères.
Le président français Emmanuel Macron a encouragé hier son homologue camerounais Paul Biya à mettre réellement en œuvre le dialogue politique après la libération du principal opposant Maurice Kamto, qu'il a salué. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête à l'occasion de la réunion du Fonds pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose à Lyon, en France. Yaoundé a organisé ces dernières semaines un grand dialogue national pour dénouer le conflit meurtrier qui l'oppose à des séparatistes anglophones dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu hier dans le centre du pays pour la la première fois depuis les attaques de djihadistes, le 30 septembre et le 1er octobre, contre les camps militaires de Boulkessi et de Mondoro. M. Cissé a exprimé la reconnaissance de la nation malienne à 6 blessés alités à l'hôpital de Sévaré. À quelques kilomètres de là, à Mopti, devant des centaines de soldats, il a assuré que son gouvernement mettra tout en œuvre pour renforcer le dispositif militaire.
Au même moment, toujours au Mali, le général démissionnaire et opposant Moussa Cinco Koulibaly s'est expliqué devant les gendarmes sur des propos tenus sur Twitter après Boulkessi et considérés par le pouvoir comme des appels à un coup d'État. Il appartient à ceux qui m'ont convoqué aujourd'hui de bien analyser ce que j'ai dit et d'y donner la suite appropriée, a dit Moussa Cinco Koulibaly, sorti libre de son audition. Nous reviendrons sur la visite du Premier ministre Cissé dans le centre du Mali avec notre correspondant Mamadou Boukom en seconde partie de cette édition.
En Angola, le président João Lourenço, qui entretient des relations très tendues avec son prédécesseur et ancien mentor, José Eduardo dos Santos, a accusé jeudi des membres de son propre parti de financer une campagne de déstabilisation du pays. Le point avec Lionel Gaïma.
Ceux qui ont détourné les ressources du pays utilisent ces mêmes ressources pour financer une campagne de déstabilisation, une campagne d'intoxication contre l'Angola, a déclaré João Lourenço à Luanda devant les jeunes du MPLA, le parti au pouvoir. Cette campagne n'est pas contre le président, cette campagne est dirigée contre notre pays. Elle a été proposée par des nationaux, apparemment du MPLA, et je dis apparemment parce qu'ils ne se comportent pas comme tels. Et qui ont encore le culot de parler au nom du peuple, a-t-il ajouté, sans citer de nom. En septembre 2017, João Lourenço a succédé à José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant 38 ans. Peu après, au nom de la lutte contre la corruption, le nouveau président a lancé une grande purge dans l'administration et les entreprises publiques qui a visé des proches de l'ex-chef de l'État.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'offensive d'Ankara en Syrie a provoqué hier la fuite de milliers de civils face à l'avancée des forces turques contre les Kurdes des unités de protection du peuple. Les États-Unis ont estimé que l'offensive d'Ankara n'avait pas à ce stade franchi de ligne rouge. Mais le président américain Donald Trump a évoqué pour la première fois la possibilité d'une médiation américaine. Le point avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a chargé la diplomatie américaine de tenter d'arranger un cessez-le-feu entre la Turquie et les forces kurdes, selon un haut responsable américain au département d'État. Ce dernier a confirmé que le président Trump avait demandé de voir s'il y a des zones d'entente possibles entre les deux parties, s'il est possible de parvenir à un cessez-le-feu. Les cinq pays européens siégeant au Conseil de sécurité, Paris, Berlin, Bruxelles, Londres, Varsovie, ont réclamé l'arrêt de l'action militaire unilatérale de la Turquie. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde inquiétude. Ankara a lancé depuis mercredi soir la phase terrestre de son offensive et ses forces ont franchi la frontière, concentrant leurs opérations dans les secteurs frontaliers de Ras al-Ain et de Tal Abyad, contrôlés par les forces kurdes. Au moins 29 combattants des forces kurdes et 10 civils ont été tués par les frappes aériennes et les tirs d'artillerie de l'armée turque depuis mercredi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Cette offensive turque a suscité simultanément la fuite de plus de 60 000 personnes quittant les secteurs frontaliers, d'après toujours l'OSDH.
Deux hommes d'affaires proches de Rudy Giuliani, avocat personnel du président Donald Trump, ont été arrêtés et inculpés par la justice américaine pour avoir fait des contributions illégales, estimées à des centaines de milliers de dollars, à des campagnes électorales républicaines, dont un comité d'action politique pro-Trump. Les deux suspects, Lev Parnas et Igor Fruman, des citoyens américains nés en Ukraine et en Biélorussie, ont été interpellés mercredi soir à l'aéroport international de Washington, munis d'un aller simple pour une destination à l'étranger, a révélé la police fédérale. Les enquêteurs de la Chambre des représentants chargés de l'affaire ukrainienne étaient à leur recherche au même moment. Parnas et Fruman auraient aussi, dit-on, fait pression pour le limogeage l'année dernière de l'ambassadrice américaine en Ukraine. Nous reviendrons sur l'affaire ukrainienne et l'enquête des députés démocrates sur une éventuelle procédure de destitution du président Trump en seconde partie de cette édition.
Le président Trump doit s'entretenir aujourd'hui à la Maison-Blanche avec le vice-premier ministre chinois Liu He, alors que l'on s'attend à au moins un accord commercial partiel entre les États-Unis et la Chine. Il a parlé de très, très bonnes négociations après les pourparlers qu'ont eu hier le négociateur chinois et le représentant américain au commerce Robert Lighthizer. C'était les premières discussions à ce niveau depuis juillet. Entre-temps, la guerre commerciale a continué entre Washington et Pékin.
C'est la fin de ce journal sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Eco, Nanit Talani.
La Guinée équatoriale déclare que les nouveaux contrôles monétaires imposés par la Banque des États de l'Afrique centrale pourraient ruiner l'industrie pétrolière et gazière du Golfe de Guinée et détruire l'économie équato-guinéenne. Les règles de la BEAC, introduites en juin, visent à mettre de l'ordre dans un bloc monétaire qui regorge de pétrodollars qui, en raison de contrôles peu rigoureux, aboutissent souvent dans des comptes bancaires offshore après avoir contourné complètement les économies locales. Les entreprises affirment que ces restrictions entraînent une grave pénurie de devises et retardent les transactions. Le Nigeria demande 62 milliards de dollars aux compagnies pétrolières internationales en vertu d'une réglementation permettant au gouvernement de revoir les accords de partage des revenus sur les ventes de pétrole si les prix du brut dépassent 20 dollars le baril. Les sociétés pétrolières impliquées dans cette affaire n'ont pas été nommées. Des sources industrielles et gouvernementales ont déclaré à Reuters que Shell, Eni, Chevron et Exxon avaient été invités à verser entre 2,5 et 5 milliards de dollars au gouvernement central. Pour terminer, l'économie égyptienne connaîtra une croissance de 5,8%, un taux en deçà de l'objectif de 5,9% du gouvernement. Le gaz, le tourisme, le commerce, l'immobilier et la construction ont été les principaux moteurs de la croissance.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal accroche le Brésil en match amical.
Oui, 1-1 entre les Lions de la Teranga et la Seleção à Singapour. Le Brésil était pourtant bien entré dans son match avec un but de Roberto Firmino dès la 8e minute de jeu, mais Diédiou a égalisé à la 45e sur un pénalty provoqué par Sadio Mané. C'était la première sortie pour Aliou Cissé et ses poulains. Après la défaite en finale de la CAN 1-0 face à l'Algérie, Neymar est resté muet pour sa 100e sélection, vainqueur de la Copa América à domicile en juillet. Le Brésil enchaîne ainsi un troisième match sans victoire après le nul en amical en septembre contre la Colombie 2-2 et une défaite 1-0 devant le Pérou. La Seleção aura l'occasion de se rattraper dimanche contre le Nigeria, toujours à Singapour. Une opportunité pour Neymar, 61 buts en sélection, d'égaler Ronaldo, 62 réalisations et deuxième meilleur buteur de l'histoire du Brésil, derrière Pelé, 77 buts. De son côté, le Congo a fait un match nul 1-1 avec la Thaïlande, 1-0 pour le Gabon face au Burkina Faso.
Deux mois de suspension pour le président de la Fédération ougandaise de football.
Moses Hassim Magogo a été suspendu par la FIFA de toute activité liée au football pour deux mois suite à une affaire de revente de billets du Mondial 2014. Le président de la Fédération ougandaise a été aussi condamné par la commission de discipline de la FIFA à une amende de 9 000 €. L'enquête avait été ouverte depuis juillet 2018.
Les femmes de retour au stade en Iran.
C'est une première en près de 40 ans. Environ 3500 femmes étaient présentes hier dans les gradins du stade Azadi de Téhéran pour soutenir le 11 masculin national face au Cambodge en éliminatoire pour le Mondial 2022. Tenu à l'écart des hommes dans une arène remplie à moins de 10%, ses supportrices, plus nombreuses, n'ont pas pu empêcher la lourde défaite de leur équipe nationale 14-0. Après la révolution islamique de 1979, les Iraniennes s'étaient vues refuser l'accès au stade pour les compétitions de football hommes, officiellement pour les protéger de la grossièreté masculine.
Un match de la NBA s'est disputé en Chine malgré la crise.
Les Los Angeles Lakers de LeBron James et les Brooklyn Nets ont disputé, comme prévu à Shanghai, un match d'exhibition. Le doute planait sur cette rencontre perdue 111-114 par les Lakers. La crise entre la Chine et la NBA a commencé vendredi dernier après un tweet du directeur général de Houston Rockets, Daryl Morey, qui exprimait son soutien aux manifestants hongkongais. Pékin et de nombreux internautes chinois ont exprimé leur mécontentement après le tweet. Le match s'est finalement tenu sous forte présence policière.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, le dialogue politique tant annoncé a démarré hier matin avec les partis ayant pu avoir leur certificat de conformité. Il s'agit pour les participants à cette rencontre d'œuvrer en faveur d'un apaisement définitif de la situation politique dans le pays. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
C'est le président Patrice Talon qui a démarré les travaux jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Le chef de l'État est revenu sur les raisons profondes de ce dialogue politique qui pour lui reste nécessaire si le Bénin tient à se relever de la discorde née des élections législatives passées.
Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ses acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès.
Le dialogue va se prononcer sur le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques, du renforcement du système partisan, la recherche d'équité dans la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Cette rencontre devrait permettre de définir le statut de l'opposition et les mesures d'apaisement de la situation politique. Mais peut-on parler de dialogue politique lorsque des partis sont écartés parce que ne disposant pas de certificat de conformité? Pour Octavianus Akpabli, professeur agrégé des universités en économie, les tests sont faits pour être respectés.
Il faut qu'on évite de rentrer dans la contradiction. Le Bénin est gouverné sur la base des tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Comment voulez-vous qu'un parti qui n'est pas légalement constitué puisse être convié à un dialogue politique? Donc, quel nom donnerait-on à ce parti? Un parti qui n'est pas légalement constitué ne peut pas s'appeler parti politique. Donc c'est normal que le gouvernement reste cohérent avec lui-même en invitant rien que les partis politiques qui sont légalement constitués. Pour moi, c'est normal et c'est justifié.
Les partis politiques attendent énormément de cette assise qui doit pouvoir aplanir les divergences et orienter vers une porte de sortie. Sifis Bewagia du Moël Bénin espère que la question sur la charte des partis politiques et le code électoral sera abordée de fond en comble.
Comme attente, c'est déjà qu'il faut voir au niveau des réformes politiques ce qu'il faut améliorer, c'est-à-dire que les tests qui portent ces réformes, en l'occurrence la charte des partis politiques et le code électoral qui comporte en eux certaines dispositions dont l'application, la mise en œuvre ont révélé qu'elles pouvaient créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvaient. Et donc, Moël Bénin estime qu'il faut travailler sur ces questions-là et ce n'est qu'ensemble avec toutes les autres forces politiques qu'on pourra travailler à améliorer cette disposition-là.
Les grands absents à cette assise politique sont la RB de Nicéphore Soglo, l'USL de Sébastien Adjavon, l'FCBE, l'EL du président Yahi Boni qui d'ailleurs ont tenu une conférence de presse pour porter des critiques virulentes sur le dialogue politique en cours. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Mali, le Premier ministre Boubou Cissé a donc entamé hier une visite de 48 heures à Mopti. Visite axée sur le DDR spécial ou spécialisé et le lancement des travaux de la première réunion du comité régional du cadre politique de gestion de la crise au centre. Sur place, notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Associer l'approche politique à l'approche sécuritaire, voilà tout l'objet du cadre politique de gestion de la crise au centre. Un cadre mis en place par le Conseil des ministres en juin dernier, dont le comité régional vient d'être lancé. Il tient compte de plusieurs aspects. Docteur Boubou Cissé est le premier ministre du Mali.
Dans cette approche politique, il y a des aspects sociaux, il y a des aspects économiques, il y a des aspects même culturels et anthropologiques qui correspondent à la réalité du terrain qu'il fallait considérer pour avoir un impact réel et freiner la spirale de violence à laquelle nous étions confrontés à l'époque. Ce comité a été mis en place. Il a des démembrements au niveau régional. Je suis venu ici aujourd'hui pour procéder à son lancement officiel et surtout à son opérationnalisation.
Ce comité régional de gestion de la crise a une mission précise, comme le signale Boubacar Gaoussou Diarra, le secrétaire permanent de la structure au niveau national.
On attend du comité régional de faire connaître au niveau national les besoins des populations, les réalités que ces populations vivent au plan de la sécurité, au plan du développement, au plan des besoins humanitaires, au plan de la cohésion sociale, de la réconciliation. Et d'abord, travailler sur ces axes à leur propre niveau pour trouver des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, faire remonter effectivement ces préoccupations des populations au niveau national pour que le comité politique s'en saisisse et donne la suite ou les arbitrages qu'il faut.
Le cadre politique de gestion de la crise au centre vient à la suite d'un autre instrument. Il s'agit du PSIRC, le plan de sécurisation des régions centre du Mali, qui peine à mettre en œuvre toutes ses composantes faute de moyens. Quel est le sort réservé à cet autre instrument? Le secrétaire permanent du cadre politique de gestion de la crise au centre donne des explications.
Le PSIRC est intégré à la nouvelle stratégie globale du cadre politique et je pense que toutes les actions qui étaient prévues, tous les programmes que le PSIRC avait avec les partenaires sont intégrés dans le nouveau cadre politique et nous veillons à amplifier les efforts déjà en vigueur au niveau du PSIRC.
Tous ces efforts devront concourir à amener la paix, la stabilité et le développement dans le centre du Mali. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la dynamique Incarner l'espoir invite les Congolais à une révolution culturelle en vue de sortir le pays de l'impasse. Au micro d'Irene Herman Ungbo, son président André Ngombe.
D'abord, le constat de la situation locale que nous avons eu le temps d'analyser en tant que collectif Sassoufi, de la corruption et la volonté d'apporter, au-delà de la critique, une solution nouvelle pour les populations, un espoir, et c'est pour cela qu'on appelle notre plateforme la dynamique Incarner l'espoir.
Quelles sont les perspectives de cette dynamique?
C'est déjà de permettre à la jeunesse congolaise et à la société en général de se remettre en question et d'aller beaucoup plus vers des logiques de projet et non plus simplement des logiques ethniques qui ont toujours prévalu dans l'organisation politique actuelle du Congo.
Est-ce que vous vous identifiez par rapport à l'opposition ou vous êtes dans une dynamique de complémentarité?
On a toujours été dans un travail de complémentarité avec une certaine opposition, mais aujourd'hui nous sommes dans une stratégie de dépassement. De dépassement en se disant qu'on ne fera pas gagner un camp contre un autre, un Congo contre un autre, mais plutôt c'est quelque chose que nous proposons à tous les Congolais, y compris à ceux qui sont actuellement dans la mouvance présidentielle, de leur dire le pays est dans l'impasse, la crise économique est là, la souveraineté a été bafouée, l'argent a été volé et il faut aller ensemble vers une solution. Et cette solution, pour nous, c'est incarner l'espoir.
Mais quelle est la solution au-delà des expressions, au-delà d'une...
Non, mais je peux aller plus spécifiquement. Déjà, la première des solutions pour nous, c'est de permettre à la justice congolaise d'être indépendante du pouvoir exécutif. Et pour cela, un certain nombre de réformes doivent être mises en place, notamment la réforme du parquet, notamment doter de moyens réels la justice congolaise, qui est en fait sous-dotée par rapport au budget de la défense ou à d'autres budgets, mais notamment celui de la défense, et permettre ainsi l'établissement de ce qu'on appelle vulgairement le règne de la loi, donc le rule of law. Et avec une telle réforme, on peut permettre à l'État congolais d'avancer.
Visiblement, la dynamique Incarner l'espoir ne s'identifie ni de l'opposition, ni de la mouvance présidentielle. Quel est ce langage nouveau que vous apportez aux Congolais qui, pour la plupart, veulent d'une rupture avec un système qui a duré quand même 40 ans?
Justement, au-delà des personnes qui gèrent mal, nous avons un sérieux problème institutionnel au Congo qui vient de notre histoire politique, qui passe par des idéologies comme le maoïsme, qui passe par des idées périmées comme celle du pouvoir au bout du canon. Et donc, c'est à une révolution culturelle ensemble que nous invitons les Congolais.
André Ngombe, président de la dynamique Incarner l'espoir.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Angola, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a commencé à faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés congolais du camp de Lovoa dans la province de Lunda Norte. Le premier convoi de 200 réfugiés est arrivé hier au centre de transit de Mongamba, dans la province du Kasaï. Claire Morin-Gibourg a joint à Chikapa, le représentant adjoint du HCR en RDC, qui était présent pour accueillir ce premier convoi, Olivier Bier.
Il y a encore plus ou moins 10 000 réfugiés dans le camp de Lovoa en Angola. Ça se trouve dans la province de Lindamborst. Et parmi ces 10 000, il y en a 4 000 qui ont souhaité revenir. Il faut savoir que le HCR ne fait pas encore la promotion du rapatriement compte tenu de la situation en RDC qui a encore besoin de se stabiliser. Par contre, ces personnes ayant exprimé le désir de rentrer, le rapatriement étant volontaire, nous les assistons, nous facilitons leur retour pour qu'ils se passent dans de bonnes conditions. Il y en a encore 4 000 qui se sont enregistrés pour venir, 2 600 qui vont aller vers la province du Kasaï et 1 600 vers la province du Kasaï central, donc un ratio de 2 tiers et 1 tiers. Normalement, ça va se faire à raison de 2 convois par semaine, donc il y aura plus ou moins 6 convois pour le Kasaï et 4 convois pour le Kasaï central.
Quelles sont les plus grandes difficultés ou les plus grands défis pour ces réfugiés de retour dans leur pays ?
Je vais commencer par une note positive avant de parler des défis. Une des raisons principales pour laquelle ces personnes souhaitent revenir, c'est bien entendu parce qu'on ne se retrouve pas du tout dans la même situation que lorsqu'ils ont dû partir, c'est-à-dire la guerre qui avait sévi ici. On se retrouve dans une situation beaucoup plus apaisée. Il n'y a plus de gens qui se font décapiter, les autorités qui se font tuer, etc. Donc ces personnes peuvent retrouver certains des services de l'État et le gouverneur les a assurés que s'il y avait le moins de problèmes, ils pouvaient aller voir la police, ils pouvaient renforcer de rentrer dans leurs droits, etc. Le principal défi, par contre, c'est que la situation socio-économique ne s'est pas vraiment améliorée et qu'il n'est donc pas du tout facile pour ces personnes, mais tout comme les Congolais qui ne sont pas partis, de retrouver un accès à l'école parce que pas mal d'écoles ont été détruites ou n'ont pas de professeurs, ou bien tout simplement ils ne peuvent pas payer les frais relatifs à l'école, hein, les uniformes, etc. Il y a aussi un défi en matière d'accès à la santé parce qu'il y a des endroits où il y a des centres de santé qui n'ont pas de médicaments, etc. Il y a les questions.
Oui, c'était Olivier Bier, représentant adjoint du HCR en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump prédit que sa bataille contre l'enquête parlementaire des démocrates de la Chambre des représentants sur une éventuelle procédure de destitution finira devant la Cour suprême. Dans le même temps, son homologue ukrainien a réitéré mardi qu'il n'a subi aucun chantage de la part de M. Trump pendant leur appel téléphonique en juillet dernier. Le point, Lionel Kahima.
Le président Donald Trump a parlé aux journalistes au lendemain du refus de la Maison-Blanche de participer à l'enquête menée par les démocrates de la Chambre sur une éventuelle mise en accusation du président américain.
Tout cela, c'est de l'arnaque. C'est un règlement de compte. Et nous avons écrit une lettre hier. Probablement, cela finira devant la Cour suprême. Peut-être que ça va prendre du temps. Je ne sais pas. Mais le Parti républicain a été incroyablement et injustement maltraité par les démocrates.
M. Trump a promis de coopérer avec les démocrates si les républicains reçoivent un traitement équitable. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre de représentants, prend ce refus de coopérer du président comme une autre preuve d'obstruction. L'appel téléphonique du président, son homologue ukrainien, pour demander un coup de pouce pour salir Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate, et son fils Hunter, est au centre de la plainte d'un lanceur d'alerte. Joe Biden, pour la première fois, a déclaré publiquement ce mercredi que les actes posés par Trump justifient une destitution.
Avec ses paroles, ses actes, le président Trump s'est inculpé lui-même en faisant obstruction à la justice, en refusant de se conformer à l'enquête du Congrès. Il s'est déjà déclaré coupable à la face du monde et du peuple américain. Donald Trump a violé son serment. Il a trahi la nation et il a commis des actes pour lesquels il doit être destitué.
L'appel téléphonique du président Trump au président ukrainien le 25 juillet dernier est au cœur de la plainte d'un lanceur d'alerte. Un deuxième lanceur d'alerte et une série de textos de diplomates semblent corroborer la plainte du premier lanceur d'alerte. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenu une conférence de presse. Il a déclaré qu'il n'y avait pas de chantage lors de son appel téléphonique avec le président Trump. Il a ajouté qu'il ne savait pas, au moment de l'appel, que Trump avait décidé de bloquer des centaines de millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Les démocrates accusent le dirigeant américain d'avoir gelé cette aide pour faire pression sur l'administration ukrainienne pour qu'elle enquête sur Joe Biden et son fils Hunter. M. Zelensky a déclaré que son objectif était d'avoir une rencontre avec M. Trump pour le convaincre de changer son discours public sur le fait que l'Ukraine était un pays corrompu. Il a assuré que la partie américaine n'a posé aucune condition et les deux hommes ont finalement eu un tête-à-tête à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et l'affaire ukrainienne est toujours à la une de journaux aux États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Vous étiez en compagnie d'Anne Albertson, Carl Starling à la régie et Idrissa Seloudia. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.